Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. 15h31, nous sommes toujours ici au Palais des Festivals de Cannes pour un MIPIM, enfin, après 2 années de confinement. On est très heureux de se retrouver. On se fera des câlins peut-être l'année prochaine, mais déjà le fait de... Mais c'est vrai, déjà le fait de se retrouver, je trouve que c'est une très bonne chose. Merci en tout cas d'être avec nous. Je vous propose qu'on fasse un petit peu d'international justement pour cette séquence. Je suis accompagné de notre super journaliste, animatrice et productrice Johanna Zilberstein.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Comment ça va, Johanna?
Je ne peux pas croire que vous n'ayez pas fait de câlin à personne depuis le début de ce meeting.
Mais oui, vous savez, je suis très tactile, je suis un Africain du Nord, on a besoin du contact des autres, bien évidemment. Merci en tout cas d'être avec nous. Deux personnes, une personne que je connais bien, puisqu'il a son rond de serviette chez Radio Imo depuis l'origine. Il nous a vu nous développer et grandir. Il est un grand professionnel de l'immobilier, président de la RIX France, Franck Ovorka.
Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation.
Comment ça va, Franck?
Fort bien, on est très heureux de se revoir après 2 ans et très heureux de pouvoir relancer nos activités avec la RIX. Tant en France qu'en Europe.
Alors justement, de l'Europe, on va en parler justement. Et j'ai le plaisir et l'immense honneur de recevoir sur le plateau, je vais essayer de bien prononcer son nom, c'est Suzanne Eckermann-Ripp, qui est avec nous sur le plateau à Rayo.
Bonjour.
Bonjour.
That's the only thing I can say.
Comment ça va?
So, I'm feeling very pleasure. It's my pleasure to be here. And you have to do all those things around in English. I'm sorry for that, yeah.
Alors, on va effectivement faire cette interview. Je vais parler en français et notre super Johanna va traduire. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir sur le plateau, Johanna.
We are very pleased to welcome you in this plateau, in
Thank
this
you.
Studio for Radio Imo in the meeting. Et Suzanne nous a dit qu'elle était très ravie aussi également d'être là, même si elle ne parlait pas bien français, ça lui faisait très plaisir.
Alors, justement, on va essayer de poser des questions qui, justement, tiennent compte de l'activité de la RIX aujourd'hui, Franck Ovorka. On revient un peu aux fondamentaux. D'abord, on va expliquer, ensuite on cédera la parole à Suzanne. Quel est le rôle de la RIX aujourd'hui dans un monde dont on peut dire aujourd'hui, franchement, dans l'économie générale de l'immobilier, a quand même considérablement changé dans les 3 dernières années?
Absolument, et la RIX et ses membres, parce que la RIX a fait un mouvement important, se réorienter totalement vers ses membres, et de se mettre au service de ses membres. Et les membres se retrouvent autour de valeurs partagées, d'éthique, de professionnalisation, de capacité d'agir ensemble sur des sujets de transition. Et Suzanne en parlera mieux que moi, mais tout ce qui va être ESG, intégration de la transition environnementale, intégration des réglementations sur l'efficacité énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, l'impact environnemental, le changement climatique, sont des sujets dont s'emparent tous les membres de la RIX en Europe, principalement en Europe.
Johanna.
So for the English and for Suzanne, Frank said that the RIX does an important movement toward their members with many shared values, and he said that sustainability will be an important point around Europe.
Definitely. So ESG and valuation, yeah, that's all we have to connect, because all the people want to know, yeah, which value their assets have. And from a valuer point of view, yeah, you are valuing on the date. But we have to take in account, yeah, that ESG will have a longer view. So maybe you have to add the future in your thoughts and maybe also in the calculations. So we need definitely to have a deeper dive in that sustainability area.
Effectivement, c'est un avis que Suzanne partage. Elle nous a parlé de l'importance de cette empreinte ESG, des valeurs également qui sont dues à l'immobilier, l'importance de connecter tous les membres finalement de la RIX autour de ces sujets, et notamment celui de la valeur, puisqu'il y a celle que l'immobilier plutôt a maintenant, mais également celle qu'elle devra avoir et qu'elle aura dans le futur, et à laquelle il faut penser dès maintenant.
Si je peux me permettre, oui. ça me rappelle les discussions qu'on a pu avoir il y a une dizaine d'années sur comment intégrer la résistance au futur dans la valeur immobilière. Tu te souviens après la crise de 2008?
Bien sûr.
C'est une question qu'on s'était posée, qu'on n'a pas résolue. Et là, la pression environnementale nous impose de remettre ce travail sur la table. Et comme disait Suzanne, de descendre en profondeur sur l'impact des événements futurs sur l'immobilier. Et là, le sujet est entier et nécessite qu'on puisse vraiment intervenir dessus.
Merci, Franck. Franck said that the subject of the value is very important. We wonder what to do about this since 2008, and the subject to be sure of the value of the
real estate assets.
Of the real estate. Merci. C'est le mot principal qui manquait.
Absolument. Juste pour prendre un exemple, oui, qui va parler à tous nos auditeurs. En France, on a le premier texte législatif, enfin réglementaire, qui pose la question de la valeur future des biens immobiliers qui sont positionnés le long de la côte, là où la montée des eaux et l'érosion côtière fera que ces immeubles disparaîtront dans un horizon de 10 à 20 ans. Ah, quelle, ouais, est la valeur de ce bien aujourd'hui? Question.
Moi, je dirais qu'elle est nulle.
C'est une question.
Sauf à définir une valeur d'usage pendant les 20 dernières années.
Exactement. On rentre, et donc,
dans les années qui lui restent.
La grosse évolution.
En fait, c'est le principe même de l'amortissement. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, il vaudra zéro.
Moins que zéro, puisqu'il faudra payer le prix de l'enlèvement des matériaux pour ne pas polluer la mer.
For you, Suzanne.
I just explained the example. It will be easier than to Anna. It's an example I already spoke about with Suzanne about the coastal real estate properties that are nearby the sea, where the sea level will rise and where the erosion will make that some properties will fall into the sea. And we already have some cases that are well known in France from some buildings, flats buildings. And the question that we are asking in the regulation, in the evaluation, is what is the value of a building where the IPCC report says that we know that this building will fall into the sea in 20 years. And the question is, it's only the residual value for the next 20 years to use it, but you will have to pay to remove the flat from the sea? Well, that's a lot of questions.
Definitely. So, and this is a reality check of the world, at least. Yeah, so there are a lot of talks about climate change and what you said, Frank, that the water level will rise, yeah? But it's reality, yeah? Maybe not only in the Western world, but also on little small islands in the APEC or in other regions. And we have to take in account, yeah, that we will see a lot of more problems, yeah? It's not only the water level, it's rain, it's heat. And this all will need to be implemented in the calculation. Yeah? And if we are not preparing for this, there will be a big shock on the market. We have to prepare. And what we see at the moment is that investors prepare for that. So RACS is doing a lot of surveying on the sentiment of the market. What we already always ask is, do you see a green premium on the capital value or on the rents? Yeah, and most of the participants say, yes, definitely. Maybe 15%, 20% if it's in a top location. And also, big portion of the participants say, so we will have a discount on brownfield. But what you really see in the market is that the investors say, so if it's not sustainable, you will not buy it. Yeah? There's not a question of brownfield, there is a no. And this will have a big impact on the real estate industry, especially on the fund business. So if you look at bigger funds, for example, the office funds, yeah? We also have seen in a recent survey that a question which arised on flexibility, yeah? What do you think, how much do we have to work on flexibility? So Germany take in this global list the first place, yeah? Mm-hmm. There must be a lot of small offices, yeah? So if you take in account that you have to remodel and repurpose all those buildings, and that most of that, this fund managers are just managing the asset or maybe managing the capital, yeah? Do we have the resources? Do we have the construction industry, the material, yeah, to work on this? So these are big problems, yeah? They are coming, but the industry is not yet aware of this and of the difficulties we have to manage.
Petit résumé, parce que Suzanne nous a dit beaucoup de choses.
La synthèse.
Ce qu'elle nous a dit, c'est que ce problème environnemental était réel. Hein. On parle beaucoup du changement climatique, mais c'est une réalité qui concerne nos grands pays, mais également les petites îles. Il y a le problème de la montée des eaux dont vous avez parlé, Franck, mais pas seulement. Il y a celle des pluies ou de la chaleur qui est également en augmentation.
Ah, oui,
tout ça doit être calculé, doit être pris en compte pour que l'on puisse être préparé. Elle nous a également parlé de l'importance et les membres de la RICS échange autour de ça sur l'importance que l'immobilier vertueux, l'immobilier vert puisse bénéficier de primes. Elle nous a parlé d'exemples allant même jusqu'à 50% pour des 15% pour des sites qui étaient très bien localisés. Et d'ailleurs, mais ça on l'a déjà dit plusieurs fois, les immeubles qui aujourd'hui ne sont pas vertueux ont beaucoup de mal à se vendre, n'ont plus vraiment de valeur
en fait,
sur le marché.
Ils sont obsolètes.
Bah, pour reprendre mon exemple, pour reprendre mon exemple de l'immeuble qui va tomber dans la mer dans 20 ans, en fait, sa valeur, elle peut être de zéro. Il n'a plus aucune valeur puisqu'il n'a plus personne pour l'acheter sur le marché.
Oui, sauf les propriétaires qui l'occupent actuellement.
Oui, mais ça n'a plus de valeur sur le marché.
Et qui se disent, je suis mal
donc,
dans 20 ans.
Donc, il reste une valeur résiduelle d'occupation, mais une valeur de marché qui est de zéro.
Vous vous rappelez cet immeuble dont on parle souvent, là, je crois que c'est sur la côte bordelaise,
c'est ça.
Qui est face à la mer. Là,
le signal.
Oui, le signal. C'est incroyable.
C'est un des exemples. Mais, ouais. Et donc la question que nous posons à la RICS, c'est l'intégration de ces impacts futurs dans la valeur de l'immobilier. Parce que tu dis ça a la valeur de l'amortissement. Non. S'il n'y a plus personne pour l'acheter, selon l'équation et la définition de la valeur, c'est un immeuble qui vaut zéro.
Oui.
Et même moins que zéro.
Oui,
puisqu'il faut l'entretenir.
Il faudra le
démolir.
Il y avait d'autres points sur lesquels il
fallait... C'était tout.
Alors, c'est intéressant parce que...
Just for Suzanne, I just said that if I take back my example of a building that will fall down into a sea in 20 years, the value maybe is even less than the amortization that you could have for the next 20 years. Maybe the valuation is zero because no one will buy it on the market. It's what you said. If there is the brownfield, it's not only a discount, it's that you go directly with a shock from a value of a beautiful house near the sea,
bien sûr.
To value zero.
Bien, absolument.
Near
the sea. On est d'accord. Alors justement, on va comprendre, on va aller dessus. Alors je sais que vous n'aimez pas trop faire de la politique. Néanmoins, une chose est sûre, c'est que tout est politique. Et essentiellement en matière d'immobilier. Car tout est réglementé. Tout est encadré. Tout est zoné. Le zoning s'impose aux États-Unis de la même façon. En Allemagne, qui est un marché de locataires, il faut le rappeler, c'est pas un marché de propriétaire l'Allemagne. On est sur un marché très réglementé, à trois niveaux. Il est réglementé sur le plan de l'aménagement du territoire, avec des particularités qui sont liées à des régions. On peut prendre, si on prend l'Allemagne, à des Landers par exemple, qui définissent leur propre PLU entre guillemets, ou leur propre occupation du sol et du territoire. Le deuxième point, c'est le plan de la construction des matériaux. Et effectivement, on le met en perspective, des matériaux éco-sourcés, biosourcés, faible emprise carbone. Et j'y intègre la logistique. Qui fait que le troisième point, c'est l'usage, la multipolarité de l'usage. Retail, résidentiel, bureau, mixité d'usage, logistique, etc. Est-ce qu'il ne conviendrait pas, enfin peut-être, d'un point de vue systémique, de se poser la question de l'utilité de l'immobilier, de l'habitat, quelle que soit sa forme, dans la nouvelle cité, dans la nouvelle urbanité? Parce qu'on parle de valeur. Ce que vous dites.
La valeur, c'est l'usage.
On parle de valeur. On parle de prix. On parle d'amortissement. Bref, on parle d'une classe d'actifs avec des lignes. Mais est-ce qu'à un moment donné... Il ne va pas falloir qu'on change le scope et que cette économie-là va prendre Je sais que tu vois où je veux en venir.
I will translate for Suzanne because I know where you want to come. In fact, what Sylvain asked is the real estate sector is regulated at three levels. The right of land occupation, land use, the regulation on what you can build, which material you can use, life cycle assessment of materials in greenhouse gas impact, and the regulation on what you can do in the building, housing, retail, office building. And the question for Sylvain is not now the moment to say, well, this regulation made the value of buildings. Do we have to maybe think about a new model where we will first think about what is the use of a building in the city, and then think about how we can build the valuation on what is the use of a building and not as an asset class?
I have a little bit different thinking on that. Yeah. So before we change the model to calculate, we should have in mind that we may talk about the necessity of buildings. Yeah. The necessity means not only new buildings, it means also what kind of buildings do we need. So for example, in London, the Tulip Tower, there was a project with a restaurant and a sightseeing in London. And BREEAM outstanding, everybody is ready to run for the project. And the major says, so sorry, nobody needs this thing, it's only CO2. Yeah. So we have to have in mind that if the system will be more radical on CO2 emissions, we will maybe get a budget in real estate, and then the question of necessity will be the question of the year. And then I think we will have to have a look on social impact of buildings. We will have a look on environmental impact of buildings. And this will maybe stream all those products which are made as a capital project, stream that down, and maybe high-rise those things we really need, infrastructure, social housing, whatever.
Suzanne nous a dit qu'il était peut-être temps de changer de modèle pour calculer finalement à quel point on pouvait avoir besoin d'un bâtiment, est-ce qu'il faut en construire ou pas, est-ce qu'il faut en construire à nouveau, et si oui, de quel type, pour faire quoi, un hôtel, un restaurant. Peut-être qu'au final on va se rendre compte qu'on n'a pas besoin de ce nouveau bâtiment, et du coup on ne le construira pas, et finalement cette question de la nécessité, du besoin, va pouvoir amener d'autres questions, notamment sur l'impact sociétal ou environnemental que peut avoir le bâtiment.
D'ailleurs l'exemple qu'a pris Suzanne est intéressant, parce que c'est l'exemple du bâtiment Tulip à Londres, où le maire a dit, finalement, on n'en a pas besoin. Alors que c'est un bâtiment qui était BREEAM Outstanding, donc la meilleure note en termes de qualification environnementale au Royaume-Uni. Tout était prêt, l'investisseur était prêt, et le maire a dit non, finalement, on n'a pas besoin de ça, en fait.
Oui.
Ça n'apporte rien à la société. Et ça pèse du carbone.
Alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant. On va aller au bout du modèle.
We can go further with a tulip forbidden project.
On va aller au bout du modèle. On estime qu'en 2050, 80% de la totalité de la population planétaire va vivre dans ce qu'on appelle l'urbanité, la ville.
Maybe.
Ce sont des projections. Une hyper-métropolisation qui fait qu'on a des centres urbains qui deviennent finalement des états mondes ou des villes mondes, etc. Bon, je reprends le truc. Sauf que on vient de traverser une pandémie que personne n'avait vu venir. Personne. Et on voit des territoires moyens, une occupation de l'espace repensée différemment, en revitalisant, etc. Et au même moment, dans les classes d'actifs, dans l'investissement immobilier, c'est comme si la finance venait de découvrir des vertus cardinales du green, d'une certaine forme de philanthropie, etc. Je prends un exemple. La norme ESG, effectivement, environnement, social, gouvernance, devient systématique dans toutes les classes d'actifs. Je prends une autre norme, la RSE, qui se généralise complètement, même dans les appels à projets. Mais on peut aller plus loin. Il y a même des promoteurs qui ont le label Bicorp. Il y en a qui ont des labels intéressants. Pourquoi ? parce que pour la première fois, alors est-ce que c'est la première fois ou pas, mais c'est intéressant d'avoir l'avis, on intègre des ratios extra-financiers dans des normes qui sont éminemment financières, qui étaient pensées comme telles. Est-ce qu'on n'était pas en train d'écrire une nouvelle page d'un post-capitalisme qui va détenir de l'actif non plus pour sa valeur en tant que telle, mais réellement son usage et son utilité? Et ça, ça va tout changer dans l'esprit des personnes.
There is two questions, in fact, inside.
Oui, après, c'est plus une pensée.
Yeah, yeah, but there is two questions inside. First, the projection of the United Nations says that in the next 20 years, 80% of the population will live in megacities. Is it still valid or not? Or do you see that because we went through the COVID pandemic and we, in France, for instance, some people, not so many, but some people are going out of a city to live in the outskirts or in other regions.
Exactly.
Let's say 500,000 people, more or less. But it's a first question. Megacities are another use of a landscape in the country. The second question is about what we call double materiality in accountancy. Double materiality, do you think it will go fast? That in the next year or two, real estate investor will have a double materiality accountancy with financial income and also the impact on ESG in their accountancy report. So this is the two questions.
So I think the second question is easier to answer, yes?
Yeah.
We see a very aggressive regulation, yeah? And you can be sure they will go through the consultation process until October this year. This means you have to prepare that you are ready to report your data from 2023 in 2024. This means your system must be ready this year, because where should you put your data in? So from this point of view, I definitely see that the regulation will take place, this double materiality will take place. I think there is a discussion around this double materiality, especially when you look at the European region. If you look to the international board, there's no double materiality. And the ISSB and the EFRA Commission maybe have to discuss a little bit what they really want, yeah? But I think for Europe, it's already signed that you see the double materiality. So about the people, yeah? So we have seen for the last 30 years a lot of reactions on democratic development. So we have to take in account, yeah, let's focus on the war in the Ukraine, that we will see maybe more refugees coming from overall of the world, maybe not only in the Ukraine, from the Ukraine. And I definitely think that there, if the world is able, yeah, to give all people an inclusive situation in the society, you will not see this big stream to the mega cities, because the poorest are coming to the mega cities. What we will see is maybe that the young people, as long as COVID or other infections are not appear again, that young people want to travel again, yeah, and they are working around in these mega cities, and these cities have to be smart, yeah? They have to think about what they have to deliver to those kind of people who are coming as a student, or maybe of those kind of people who are coming as a refugee. So this will also be a difficult situation for all those cities to manage all these circumstances.
Joanna.
Alors, elle a commencé par répondre à la deuxième question. En nous disant que de toute façon les réglementations, et notamment les réglementations européennes, étaient très dures, très agressives, et qu'il allait falloir de toute façon sortir ces données pour 2023 et 2024, enfin en 2023 et en 2024, donc être prêt dès cette année, que les discussions se poursuivaient, mais qu'en Europe c'était de toute façon déjà plié. Et en ce qui concerne la première question sur le développement démographique, Suzanne nous a dit qu'il fallait plutôt se concentrer sur d'où venaient les gens, que la situation n'était pas la même, que les gens soient des réfugiés, comme en Ukraine, mais pas forcément, ou des jeunes qui, par exemple, avaient, eux, très envie de pouvoir voyager à nouveau et aller de ville en ville. Donc, qu'il allait que la nécessité, ces villes devaient nécessairement pouvoir offrir, finalement, des choses adaptées à chacun de ces profils. Et donc, elles allaient devoir penser pour être pensées, pour être intelligentes.
Alors, justement, je voudrais qu'on puisse conclure cette interview sur le point, j'allais dire, le plus névralgique pour l'immobilier. L'immobilier, c'est du logement, hein, c'est un besoin primaire, hein, c'est un besoin de première nécessité. Je ne sais pas si les chiffres en Allemagne sont les mêmes qu'en France, mais la France est en régression sur le plan de la construction neuve, tu le sais mieux que quiconque. Pour atteindre les chiffres en stock actuels de l'offre immobilière française, pour trouver des chiffres équivalents aussi négatifs, il faut remonter à 40 ans. Hein. Est-ce que on se trouve pas finalement, et je pense que ça concerne tous les pays d'Europe, face à un problème qui est lié à la forme de densité voulue, pensée d'une ville? On a adopté en France, et j'aimerais avoir l'avis de Suzanne, le zéro artificialisation nette. On ne veut pas étaler la ville. On veut préserver les trésors de la planète. On veut préserver un équilibre subtil. Mais je vais ajouter un autre chiffre qui a été publié par l'OMS sur la précarité hydrique. On estime qu'en jusqu'en 2050, plusieurs dizaines de millions d'Africains de l'Afrique subsaharienne déferleront en Europe à cause de la pression hydrique. Plus que jamais, la question du toit, la question de la construction, va se poser. Voilà. J'aimerais qu'on...
I'll try to resume the question for you, Suzanne.
Voilà, bonne chance pour le désartificialisation.
It's very easy. I'll try to resume the question. Well, we are in France facing decreasing on housing construction. I don't know what the situation in Germany is, but we know that it's slowing down at the moment. But on the opposite, we know from the all the survey that we need more building, more housing than we build today. So that's the first question, and it's based also to the wish and the regulation in France linked to the regulation in Europe for no land take. So how can we manage to build more housing with no land take, no capacity to increase the land take of the city? How can we manage that? Plus, based on your comment, with refugees coming to Europe, to cities from Ukraine because of a war led by Russia, but also because some people will come from other part of the world because of water scarcity, because it's in the IPCC report, and the WHO also mentioned the water scarcity as one of the main trigger for people to move away from their country to go to another one. So where our real estate professionals can act with a pressure from politics and regulation saying no more land take, no more buildings, no more greenhouse gas, and the pressure from the population who want something different, and the people with the change of moving people around the world and around Europe.
Yeah, so I would like to come from a very nice thing which I have written a practical guide on, yeah. It's called social impact investing. So what I experienced in the discussion with all those stakeholders, yeah, the one who have the money, the one who have the power in the government to say, okay, this land is here for you, I will guide you through a quick process to have these buildings here, yeah. So it's a big collaboration we need on that. So, and this, from my point of view, yeah, we have firstly to act on the investor side, because investors, yeah, are really keen to invest in social impact, but they want to have something where they can measure this impact. It's not a kind of philanthropy, yeah, it's a kind of real estate investment, but with a definite goal in social impact. So that's on the one hand, that's the investor side. On the side of the government, yeah, it's they are sitting on how we say it, they are sitting on the as a decision maker. Yeah, if they decide we need more housing here, yeah, they can also give some land for free, ask for a concept, then choose the best one of those who are able to build it. And the real problem will then occur when you're looking for resources, material and everything. Yeah? But I think on these stakeholders from the investor side, from the government side, yeah, this is pretty clear, yeah, who has which responsibility. But in the market, we cannot, you said it already, yeah, so there's a lot of construction activity in Europe which is only going in housing, yeah, so nobody is taking care for all the old commercial buildings. And I think we will see that for the next 3 to 5 years, yeah, that housing will be one of the top priorities in the construction sector. But we have to build up new resources to make the renovation wave ready to go, yeah, yeah, at least.
That's the second topic. Yeah.
Alors, Suzanne nous a parlé de peut-être la possible création d'un guide pratique de l'impact social finalement du logement. Pour elle, il faut que deux parties collaborent. Premièrement, les investisseurs qui sont prêts à investir sur des projets qui ont un impact social, pas pour faire de la philanthropie, mais parce que ce sont de bons investissements. Et de l'autre côté, les gouvernements qui pourraient offrir du foncier pour construire des logements et choisir les meilleurs projets, même si se pose toujours évidemment la question du matériel et des fournitures qu'il faudra résoudre. Mais pour Suzanne, évidemment, le logement doit être l'une des priorités, si ce n'est la grande priorité des 5 prochaines années.
On pourrait même aller jusqu'à l'inscription d'un droit inaliénable au logement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen.
Je ne me positionnerai pas sur une position comme celle-ci, mais ça fait partie, et je répondrai ainsi, des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, dont les Nations Unies d'ailleurs travaillent avec le programme Environnement et Finances des Nations Unies sur le Social Impact Investing, parce que nous avons besoin d'un cadre de référence. Et bien Suzanne sûr. A écrit déjà beaucoup sur ce sujet-là, fait partie des expertes sur ce sujet.
La taxonomie à l'échelle européenne fait partie de cette démarche.
La taxonomie est une des briques de cette démarche. D'accord. Parce que la taxonomie va se focaliser sur le E, l'environnement, donc l'énergie, le carbone, l'eau, l'utilisation des matériels, mais il nous manque le S et le G. Et c'est là qu'intervient la vision de Suzanne sur le social impact.
Alors moi, we
also see this social impact already in the social taxonomy, which was launched some days ago. Yeah, you see that they are talking about sustainable, diverse communities and society. Yeah, they want to include the end user in this sustainable process. There are three big topics. Yeah, the third one is decent work. Yeah, with all those processes along, but the other ones are focusing on the health and well-being and inclusion of end users in this sustainability process and the communities and the society. So this is definitely a kind of social impact, yeah, we can create from the real estate industry.
Parce que Suzanne a raison de le rappeler, on parle beaucoup de la taxonomie E, qui a fait couler d'encre aujourd'hui, mais il y a quelques semaines, la taxonomie S, sur le social impact, a été proposée. Et comme le disait Suzanne, elle est basée sur trois piliers. Le premier, c'est le droit des travailleurs, faire en sorte que les gens qui construisent, qui travaillent, soient traités décemment, ce qui pose la question des endroits où ils ne sont pas traités décemment. L'impact sur les l'impact sur les communautés, c'est-à-dire comment on crée une société qui respecte les communautés. Et puis le troisième, il est différent de communautés et usages. Et puis le troisième pilier qui est entièrement basé sur le respect du bien-être, de la santé, de l'environnement bâti sur lequel on va travailler.
Merci beaucoup, Suzanne et Carmen Rippe. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est toujours très intéressant parce que moi, ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence dans tout ça. Et donc, ces rencontres internationales permettent de mutualiser cette intelligence. Et je suis vraiment, vraiment ravi et impressionné par le recul de Suzanne. Et je pense qu'on mériterait tous, justement, d'essayer de se revoir plus souvent pour partager ce genre d'expérience.
Rejoignez la RICS en Europe.
Voilà, absolument.
C'est pour ceux qui se posaient la question de savoir ce que devenait la RICS. La RICS est back on tracks. Et ça fait partie des sujets sur lesquels, sous la présidence de Suzanne, nous allons tenter de travailler au niveau européen.
Merci en tout cas, Suzanne et Carmen Rippe, d'être venus sur le plateau. Je rappelle que vous êtes donc la présidente de la RICS en Europe. Merci à vous, Franco Vorca, président de la RICS en France. Merci à Johanna.
Merci,
franchement,
Johanna.
Alors là, une synthèse de grande, grande qualité. C'est, voilà, toujours ici pour cette seconde journée du MIPIM. On enchaîne nos programmes et bien sûr, on fait le tour de la planète immobilière. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Le MIPIM, le plus grand marché international des professionnels de l'immobilier. Du 15 au 18 mars 2022, au Palais des Festivals à Cannes. En partenariat avec le groupe IWG, Alila et Colonise sur Radio Immo.